Comment remédier aux transgressions? Le Bouddha n'a pas révélé le fonctionnement de la loi karmique, ni les actions à éviter dans le but d'effrayer ses disciples. Son objectif était de les protéger de souffrances non voulues. Après tout, on ne l'appelle pas le Bouddha compatissant pour rien. Mais quel est son conseil pour ces gens qui, en dépit de cet enseignement, ou sans le connaître, commettent quand même des erreurs? Les différentes traditions bouddhiques abordent cette question de manière différente, et nous allons en examiner quelques-unes dans les passages qui suivent. Durant les premières années de l'activité du Bouddha en tant que maître spirituel, l'un de ses principaux disciples, Shariputra, lui demanda de formuler un code de règles que devrait suivre le Sangha, ou communauté des moines. Nous parlons de moines ici parce que cet incident se produisit avant que des femmes ne soient admises dans le Sangha. Le Bouddha répondit que le Sangha n'avait pas besoin d'un tel code à l'époque parce que même le moins avancé des moines était déjà fermement engagé sur le sentier de l'éveil spirituel. Mais lorsque le Sangha s'élargit, les circonstances se modifièrent et un code de conduite émergea progressivement pour plusieurs raisons. Pour contribuer à protéger les moines des influences de l'attachement, de la haine et de l'ignorance. Pour garantir l'harmonie au sein même du Sangha. Pour entretenir de bons rapports entre le Sangha et le reste de la société. Ces règles de formation monastique, qui composent le Vinaya, comme nous l'avons expliqué plus haut dans le passage « En attendant d'être vous-même éveillé, vous pouvez suivre les conseils du Bouddha », n'ont pas été créées en une seule fois. Elles furent élaborées avec le temps tandis que le Bouddha proposait ses conseils dans certains cas particuliers. Plus de 200 règles furent finalement élaborées, et l'habitude de tenir une réunion toutes les 2 semaines, à la pleine et à la nouvelle lune, s'instaura. Durant ces réunions, les règles étaient récitées à haute voix et certains moines s'avançaient séparément durant la récitation pour avouer qu'ils avaient transgressé telle règle ou telle autre. Dans la tradition Theravada, un moine peut aussi effectuer un tel aveu de transgression dans le cadre d'une pratique quotidienne de la confession. Pour les laïcs adeptes de cette tradition, lorsque ceux-ci réalisent qu'ils ont enfreint les préceptes, ils peuvent les prendre à nouveau, soit auprès d'un moine ou en se tenant seul devant une image du Bouddha, soit simplement en créant l'intention dans leur esprit de renouveler et de reprendre les pratiques de la vie vertueuse. N'oubliez pas, les règles de conduite des moines et des nonnes indiquent 4 infractions graves qui entraînent une expulsion systématique du Sangha. Les rapports sexuels, le vol, le meurtre, le mensonge concernant ses propres réalisations spirituelles. Mais la plupart des règles établies dans le code monastique traitent d'infractions bien moins graves, et les fautifs peuvent en général les réparer en admettant honnêtement leurs transgressions. Dans la tradition Theravada, une telle déclaration n'efface pas le karma négatif créé par l'infraction à la règle, mais elle renforce la détermination de l'intéressé à éviter d'enfreindre de nouveau la même règle. En outre, elle permet de faire savoir aux autres membres du Sangha que cette personne est encore résolue à suivre le mode de vie monastique de la façon la plus pure dont elle est capable. N'oubliez pas. Du point de vue de certaines traditions Mahayana, grand véhicule, il est possible de purifier son karma négatif, aussi lourd soit-il, bien que si l'on est moine ou nonne, commettre l'une de ces 4 grandes infractions mentionnées à la section « Les moyens de racheter ses erreurs » entraînera quand même l'exclusion du Sangha. Pour en savoir plus sur le Mahayana, écoutez les chapitres 4 et 5. En ce qui concerne la purification du karma négatif dans la tradition Theravada, la pratique de la vie vertueuse et la culture de la vision profonde constituent des moyens généraux qui protègent les adeptes contre les conséquences d'actions néfastes. Pourtant, certaines actions sont si lourdes de conséquences, comme le meurtre de ses propres parents, que la personne qui a commis le parricide ne sera peut-être pas en mesure de se purifier complètement. Même Moudgalyayana, l'un des disciples avancés du Bouddha, qui était célèbre pour ses pouvoirs surnaturels, dut subir une mort terrible qui fut le résultat karmique du meurtre de sa mère dans une vie antérieure. Dans le Zen, la purification prend place à travers un processus de rachat qui diffère de manière significative de la version Theravada. Outre l'aveu du méfait et la détermination de ne pas répéter l'acte, l'expiation dans la tradition zen est comprise comme une occasion de faire table rase du karma et de revenir à la pureté initiale de la nature originelle de l'adepte. Les adeptes du zen se servent des vers suivants dans une traduction ou une autre, dans la cérémonie d'expiation elle-même et aussi comme préliminaire à d'autres cérémonies importantes afin de s'assurer qu'ils ont leur fondement dans la pureté de la véritable nature. Tout le mauvais karma que j'ai jamais commis depuis le temps jadis, à cause de mon avidité, de ma colère et de mon ignorance sans commencement, né de mon corps, de ma bouche et de ma pensée, maintenant je l'expie dans son intégralité. Conseil. Dans d'autres traditions comme le Vajrayana, les adeptes réalisent cette purification en appliquant consciemment les quatre puissances antagonistes. Le regret. L'adepte ressent des remords pour le mal qu'il a causé, il reconnaît et admet ses erreurs. Ne confondez pas cette déclaration ouverte et honnête ou aveu des erreurs commises avec de la culpabilité qui, elle, est contre-productive. La culpabilité vous piège dans le passé. Elle solidifie votre identité comme celle d'une mauvaise personne et elle rend plus difficile le mouvement vers des comportements plus constructifs. Le regret implique de reconnaître que vous avez fait une erreur, ce qui constitue le premier pas pour la réparer. Au lieu de vous piéger dans le passé, le regret sincère vous incite à prendre soin de vous-même et des autres en changeant vos comportements, aussi bien maintenant qu'à l'avenir. La résolution. L'adepte décide de ne pas répéter cette action destructive. Il ne suffit pas d'avouer que vous avez fait une erreur. Vous devez faire l'effort de vous abstenir de la répéter. Le mieux serait que vous fassiez le serment de ne plus jamais commettre cette action néfaste pour le reste de votre vie. Conseil. Mais soyez réaliste. Si vous pensez qu'il vous sera impossible de tenir un serment pendant toute votre vie, vous pouvez faire de votre mieux pour essayer de ne pas agir de la sorte pendant une durée spécifique, plusieurs mois peut-être, ou même les quelques prochains jours. En vous entraînant de cette façon, vous finirez par accumuler suffisamment de force et de confiance pour cesser complètement cette activité. La confiance. L'adepte se fie à sa prise de refuge dans le triple joyau et à son dévouement envers les autres pour éliminer la négativité. Chaque fois que vous commettez une action non vertueuse, vous la dirigez contre un autre être ou contre le Bouddha, le Dharma ou le Sangha. En ayant confiance justement en ces objets-là, vous pouvez contribuer à purifier la négativité dans laquelle vous êtes engagé, quelle qu'elle soit. Si votre action est dirigée contre le triple joyau, par manque de respect par exemple, en traitant sans soin des textes du Dharma, vous pouvez commencer à rectifier votre erreur en vous rappelant de leur excellente qualité et en réaffirmant que vous prenez refuge en eux. Et si vous avez nui à d'autres êtres, rappelez-vous de votre intention compatissante de gagner l'éveil pour eux. Ces deux confiances, la prise de refuge et la création de la motivation compatissante, Bodhicitta, dont nous parlons au chapitre 14, sont contenues dans la prière populaire suivante. Je cherche refuge jusqu'à ce que je sois éveillé dans le Bouddha, le Dharma et la plus haute assemblée, par les mérites vertueux que je gagne, en pratiquant le don et d'autres perfections, puis-je atteindre l'état de Bouddha afin d'en faire profiter tous les êtres sensibles.
Un puissant remède. Le film Gandhi, récompensé par 8 Oscars, a eu un impact notoire sur des millions de gens. Une de ces scènes mérite particulièrement d'être mentionnée ici parce qu'elle illustre clairement le pouvoir qu'a un remède correctement administré de désamorcer même le karma le plus négatif. Gandhi s'était rendu à Calcutta en réponse à la violence qui avait éclaté dans cette ville du nord-est de l'Inde entre les hindous et les musulmans. Engagé dans un jeûne prolongé qu'il avait juré de continuer jusqu'à ce que les violences cessent, le Mahatma était proche de la mort et une foule immense s'était rassemblée autour de lui. Soudain, un hindou se précipite près du lit et lui tend un morceau de pain. Apparemment affolé, l'homme crie « Mange ça ! Je ne veux pas avoir en plus ton sang sur la conscience !» Il révèle ensuite que dans les combats, il a tué un jeune garçon musulman et que désormais, il s'attend à être jeté en enfer pour cet acte. Malgré sa faiblesse, Gandhi regarde alors l'homme attentivement et lui dit ceci. « Je connais un moyen pour te faire sortir de l'enfer. » Il explique ensuite à l'homme que celui-ci doit aller en ville et trouver un jeune garçon musulman dont les parents auront été tués dans les affrontements. Ensuite, il doit ramener cet orphelin chez lui et l'élever comme son propre fils. « Mais souviens-toi, » ajoute Gandhi, « que tu dois l'élever en musulman. »
Le remède. Pour l'adepte, il consiste à effectuer des actions positives spécifiques afin de contrebalancer la négativité qu'il a créée, quelle qu'elle soit. Les actions vertueuses spécifiques s'opposent directement aux 10 actions non vertueuses données dans la section « Un regard approfondi sur les 10 actions non vertueuses » plus haut dans ce chapitre. Par exemple, sauver et protéger la vie des autres est l'opposé de la première des actions nuisibles, tuer. Un moyen puissant pour neutraliser le dommage que vous avez peut-être commis consiste à faire quelque chose de complètement contraire à la négativité que vous voulez purifier. Agir par amour plutôt que par haine, par générosité plutôt que par avarice, par compassion plutôt que par malveillance, etc. Parmi les activités généralement recommandées pour contrebalancer la négativité, on trouve le service des pauvres et des indigents, la visite de gens à l'hôpital, le sauvetage de la vie d'animaux, y compris celle de vers servant d'appât pour la pêche, sur le point d'être tué, les offrandes à des monastères et à d'autres organisations religieuses, la récitation de passages de textes traditionnels du Dharma, et mieux encore, la méditation sur leur sens et leur mise en pratique, le dessin d'images saintes. En suivant les conseils du Bouddha, vous pourrez éviter de subir certaines des conséquences les plus graves de vos actions négatives, du moins pour le moment. Mais pour vous débarrasser complètement de ces conséquences, vous allez devoir aller plus loin, comme nous le décrivons au chapitre 13, qui traite de la libération totale du cycle de l'insatisfaction.